Soit démasqué, jugé.
Boulevard.
C'est aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Hein? Vous le savez, pour les fans de Boulevard 102.1. Mais surtout pour les fans de Papa Roach, je ne veux pas tourner le fer d'emblée, mais c'est aujourd'hui qu'on a notre concert acoustique avec les gars de Papa Roach, ici à la scène Le Bourgneuf, 19h tapant, avec toute la belle gang qui a organisé ça ici à la station avec main de maître, honnêtement. C'est incroyable, réussir à faire un événement comme ça, privé, acoustique, avec les gars de Papa Roach. Reg, comme animateur de soirée, il va avoir des confidences, des discussions. C'est un show intime pour lequel on a fait gagner des paires de billets depuis 2 semaines déjà. Des gens qui ont appelé à plus de 300 appels par émission parfois. Des gens qui ont écouté la programmation de A à Z pour être assurés d'avoir sa part de billets parce qu'on en faisait gagner dans chacun des shows. J'écoutais Denis Gravel vendredi dernier qui disait « D'un coup que peut-être on aurait une paire encore qui aurait... » Je sais que Véro Bergeron travaille depuis ce matin à faire des confirmations de dernière minute pour ceux qui ont gagné, à savoir est-ce qu'ils vont vraiment venir, à savoir aussi s'il nous restait un banc ou deux bancs de livres dans cette pièce de 150 personnes seulement. Peut-être que si vous écoutez la programmation, vous écoutez le retour tantôt avec Denis, Véro et Audrey, il y aura une surprise annoncée, mais je ne peux pas faire de promesses. Tout ce que je vous dis, c'est que je sais qu'on travaille fort à savoir si on a rempli comme il faut cette salle-là, parce que ça a été phénoménal comme succès. Vous êtes plusieurs à vouloir venir. Vous avez été plusieurs à être capable d'avoir la main sur une paire de billets. Et j'ouvre leur CV avec du Papa Roach parce qu'on est bien, 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 bien heureux de savoir ça. Puis les gars sont en ville. Ils se sont promenés toute la journée dans le Vieux-Québec hier. Ils ont fait des stories. Allez voir justement là, celle de Jacob, entre autres, qui fait son touriste, un vrai touriste. Allez voir les canons, allez voir le Château Frontenac, allez voir la Fontaine de Tourny, l'Assemblée nationale. Ils se sont promenés sous le soleil. Puis ce qui me fascine, c'est que, puis on en jasait Reg Laplanche chez moi, on n'a pas vu une seule photo de qui que ce soit dans la ville de Québec à dire « Ah, moi j'ai croisé les gars de Papa Roach hier en pleine ville. Regardez ma photo. » Il y en a plein des chansons acoustiques, des grands succès comme celle-là, Scars, qui seront faites ce soir. On va essayer de faire du contenu le plus possible, mais c'est vraiment en écoutant Boulevard 102.1 que vous avez accès à ces super concours-là. Notre équipe est fascinante, réussir à faire quelque chose du genre. Puis merci à vous autres aussi d'embarquer dans ces beaux trips-là. L'heure CV, ça commence maintenant. Il est 10h06. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Non, mais on a-tu de la belle température? On a-tu quelque chose de le fun en fin de semaine? Aucune pluie, pas de nuages, des toits ouvrants. Je voyais du barbecue à grandeur de la ville de Québec, des gens qui sont sortis en terrasse. Et la bonne nouvelle dans tout ça, je pense que j'ai jamais vu ça en 10 ans de prévisions météo à annoncer à la radio. Un genre de lundi à vendredi, donc toute la semaine. Tout ce que je vois au radar d'Environnement Canada, c'est du gros soleil et le maximum est toujours le même. On est à 27 degrés comme maximum qu'on peut atteindre à chaque jour jusqu'à vendredi prochain. Il y a quelque chose de fébrile dans l'air, il y a quelque chose de plaisant. J'espère que vous en profitez. J'espère que vous avez du fun, peu importe où vous êtes, même si c'est au travail. Puis allez vous chercher une petite portion de plaisir aujourd'hui, là, que ce soit d'aller prendre la pause à l'extérieur, d'aller prendre une marche avec la gang, d'aller chercher un café glacé. Vous méritez ça, c'est lundi matin. Le proverbe du jour, à cœur vaillant, rien n'est possible. Il y en a une qui en a un cœur vaillant, c'est Sarah Dufour. Aller en Chine pour faire découvrir ses chansons, c'est quand même pas rien. Elle revient tout juste de ce périple-là. Elle est venue en parler de long en large ici à Boulevard 102.1. Puis on s'en va l'écouter parce qu'elle s'en va dans le bois, elle, ce matin. Sarah Dufour, dans l'heure CV. Merci d'être là.
CV. Avec Pascal Cévé.
Oui, mais les salutations sont entrées au 88-971-1021 si vous voulez vous joindre aux auditeurs qui ont dit « Bonjour, c'est lundi, on travaille nous aussi, on est contents d'être ensemble dans ce meeting qu'on appelle l'heure CV de 10 à 11. Ben, » c'était un bonheur de vous lire. Sinon, sur Twitch, c'est déjà bien commencé cette semaine-là, vous jasez beaucoup entre vous. C'est vraiment le fun de voir le chat, mais vous jasez aussi sur les sujets. Puis c'est quoi Twitch? Ben, c'est des caméras en studio, pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est le temps d'arriver en ville, comme diraient certains. Twitch.tv, tapez dans l'onglet de recherche BLVD barre en bas FM. Puis souvent, ben, on fait des concours exclusifs aussi sur le Twitch. Et en fin de semaine, puis peut-être que vous allez dire, t'es jeune, je sais qu'il y en a qui vont le signaler, mais je me suis trouvée vieille. Je vous explique pourquoi. Ça fait 10 ans, jour pour jour, que j'ai terminé mon cégep. J'ai fait une technique en arts et technologies des médias pour être à la radio avec vous. C'était 3 ans. Puis, il y a eu les retrouvailles. Ça se faisait à Montréal parce que dans le domaine, souvent, ben, tout le monde est un peu partout au Québec, puis à se déplacer pour le travail. T'sais, on n'est pas toujours dans le même centre, puis on n'est pas toujours dans des régions, puis peu importe. C'était à Montréal. On a pogné un sapristi de coup de vieux. Avez-vous eu vos retrouvailles, vous, dernièrement? Que ce soit du secondaire, du cégep, de l'université, peu importe. Là, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, j'ai l'impression que personne n'avait réellement changé. On a tous vieilli. Il y avait des enfants au compteur. Il y avait des expériences de travail au compteur. Même, ça m'a surprise à quel point des gens avaient lâché les médias. Il n'y en avait pas beaucoup encore qui pratiquaient le métier. Ils étaient allés à l'université, ils avaient étudié autre chose, puis ils avaient continué de faire leurs affaires. Mais ce qui m'a vraiment fascinée, c'était que malgré les dizaines d'années qui séparait cette fin de cégep-là où tout le monde était très, très près les uns des autres, où il y avait des anecdotes quotidiennes qui se passaient, où on partageait notre quotidien. Puis en plus, ben, c'était un peu comme un campus universitaire américain, là, honnêtement, Jonquière, pour arts et technologies des médias. On vient tellement de partout au Québec pour ce programme contingenté-là que... On se crée des familles parmi nos amis. Donc, on a des appartements à 17 ans. Puis, ça vient avec des parties, ça vient avec de l'entraide, ça vient avec la cuisine collective, ça vient avec plein de choses du genre. Fait qu'il y a des liens encore plus forts qui se tissent. Mais ça m'a fasciné de voir que les gens étaient restés les mêmes. Puis ça, ça a été pour mon cégep. J'ai eu mes retrouvailles de secondaire aussi il y a un an. Là, c'est un peu plus comique. T'sais, ceux qui pétaient plus haut que le trou au secondaire, finalement, avaient pris un petit retrait puis un petit calme, justement, à travers les années. Puis certains avaient dit aussi, après le secondaire, moi, j'ai pu devenir qui j'étais parce que j'ai perdu mes étiquettes, celles qu'on m'avait imposées, celles qu'on m'avait mises par les collègues puis qui me plaisaient pas nécessairement puis que j'ai voulu me défaire, mais que ça n'a jamais réussi. Mais après le secondaire, j'ai pu vivre ma vie puis finalement... être la personne que j'étais réellement. Ça, j'ai trouvé ça beau d'entendre ça. Mais pour le cégep, là, honnêtement, en fin de semaine, je me suis dit, il n'y a personne qui a nécessairement changé. Puis c'est drôle parce que c'est comme si ces années-là, quand on est jeune... Moi, je considère que ça fait partie de mes plus belles années de ma vie. Là. Il y en a eu d'autres. Il y en aura d'autres, assurément. Il y a plein de choses qui me restent à vivre. Mais ça fait vraiment partie des plus belles années de ma vie où je me suis découverte, où je me suis assumée, où j'ai justement développé des capacités qui m'ont servi au personnel puis au professionnel. Mais on a une folie à cet âge-là que j'ai l'impression qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut cultiver. Et c'est un peu ce que je voyais. C'est comme si on était revenu, puis là, c'est peut-être l'effet de gang aussi, là, mais à cette folie-là de la jeunesse, de la vingtaine. Puis je trouvais ça beau. Tout le monde s'est laissé aller. Tout le monde s'est mis à jaser des petites affaires. Oui, on a vieilli, on est devenu plus mature. Puis c'était le fun de le constater aussi parce qu'il n'aurait pas fallu qu'on reste ceux qu'on était à 20 ans. Là, je fais des farces, mais vous aussi, vous avez eu 20 ans. Mais ce grain de folie-là qu'on oublie dans notre quotidien, avec les années qui passent, avec les responsabilités, est-ce qu'on l'entretient assez? Ça, ça ne veut pas dire d'être immature et commencer à faire les bombes à travers la ville. Là. En même temps, ça vous appartient, mais est-ce qu'on l'entretient assez? Puis quand on se met à recôtoyer ces gens-là avec qui on a fait les 400 coups, il y a une magie, une fébrilité qui se crée. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose que vous avez vécu de votre côté pendant vos retrouvailles, mais parlez-moi-en. Je suis vraiment intéressée parce que je trouve que c'est magique. Puis pour ceux qui n'ont pas été, je ne le comprenais pas. Je comprenais que tu n'as peut-être pas le goût, si tu n'es pas bien dans ta vie, tu n'es pas au point où tu souhaites être, puis que c'est confrontant d'aller voir ces gens-là ou que ces gens-là avec qui tu as été à l'école ont été insupportables puis ont été déboulés, puis tu n'as pas le goût d'y revoir dans ta vie. Ça, là, je le comprends assurément. Mais d'avoir d'avoir cette curiosité-là, de savoir où est-ce que les gens sont rendus, comment ils voient la vie maintenant, d'avoir des conversations, de se rappeler des anecdotes, de se rappeler justement des niaiseries, ça fait vraiment du bien à ne pas passer à côté de vos retrouvailles, si jamais il n'y a pas les contextes que je vous ai nommés, là, ou organisez-les. Organisez-les, là. Attendez pas que ça s'organise. Faites-le. Et déjà, des gens qui commentent qu'à 54 ans, ils ont encore 20 ans dans leur tête, que le grain de folie n'a pas été perdu, que justement, ça fait partie de leur vie. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, peut-être que j'ai un devoir à faire avec ça. Mais quand on a des enfants aussi, probablement que vos enfants vous ont ramené aux petites affaires essentielles de la vie, hein, à l'essence même d'apprécier ce qu'on a autour de nous. Je sais, j'entends souvent parler de ça aussi, fait que peut-être que c'est votre cas. Vous pouvez le commenter 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Si vous vous demandez ce qui se passe depuis ce matin à Québec, entre autres devant le centre de détention, deuxième en importance dans la province, le centre de détention ici à Québec, mais il y a des agents des services correctionnels qui manifestent, ils se font entendre depuis très tôt, en fait, parce qu'ils veulent des meilleures conditions de travail, ces personnes-là. Au total, sont environ 300 des 2700 agents correctionnels québécois à travailler puis à réclamer de meilleures conditions, notamment dans la gestion des heures supplémentaires obligatoires. Ça, c'est le principal point de litige avec le gouvernement provincial. C'est presque du copier-coller, finalement, quand je regarde les conditions qui sont demandées, autant en santé, en éducation, que là, je vois avec le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, là, c'est vraiment tout ce qui est heures supplémentaires obligatoires. Et le bout où j'ai pris mon 2 minutes, puis vous m'avez entendu dire rire sur Twitch, puis dire « j'ai hâte de vous en parler de cette nouvelle-là », c'est quand j'ai lu par, justement, le syndicat, Mathieu Lavoie, là, qui a parlé et qui a dit « quand c'est rendu qu'il faut que tu fasses du temps supplémentaire obligatoire pour donner des activités aux personnes incarcérées, c'est rendu ridicule. Au Québec, actuellement, on donne plus de services aux personnes incarcérées qu'à nos aînés en CHSLD. Clairement, le gouvernement ne met pas les priorités aux bonnes places. C'est ce que Mathieu Lacroix du syndicat a dit. Puis là, on dit que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs agents correctionnels qui sont fâchés, qui décident de quitter la profession. Puis on en a beaucoup besoin, on s'entend. Là, c'est eux qui établissent une certaine sécurité, une certaine discipline entre les murs de prison. Mais une grande frustration en ce moment. Puis c'est vrai parce qu'on a jasé avec l'un d'entre eux dans Marceau le midi il y a trois mois et demi de mémoire. Puis on dit justement, il y avait une certaine tension là, entre les murs de prison. Puis là, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots avec les gens incarcérés, mais quand même, t'es à bout de souffle, t'es à bout de patience. Le métier a beaucoup changé aussi quand il nous jasait, cet agent correctionnel-là. Ce qu'il disait, c'est qu'avant, il y avait pas nécessairement un respect foncier, là, un respect. C'était pas un honnête respect envers les agents correctionnels, mais il y en avait un quand même, parce que entre prisonniers puis agents correctionnels, il y avait une hiérarchie, je le mets entre parenthèses, mais qui était différente que maintenant. Maintenant, ils n'ont plus grand-chose à perdre. Ce qu'il y a entre les murs des prisons, c'est beaucoup plus des petits bums très, très, comment dire, qui ont les mœurs légères côté justice. Puis là, vous allez dire, voyons, Pascal, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Pas mal tous les prisonniers ont peut-être les mœurs légères côté justice et droit parce qu'ils sont rendus entre les murs. Je le comprends. Mais si j'image ça, OK? Longtemps, on a eu des Hells Angels, des gens du crime organisé qui faisaient le crime organisé d'une manière. Mais c'est des gens qu'on avait en collectivité qui avec les activités sous la couverture qu'ils faisaient, là, on pouvait les incarcérer puis s'en rendre compte, mais ils s'attaquaient entre eux. Puis c'était du commerce qui était fait, de façon criminelle. Mais c'était pas nécessairement les petits bums qu'on voit dans la rue qui commencent à voler des voitures pour financer l'achat d'armes à feu sur le dark web, puis qui ont rien à perdre, qui veulent intégrer des gangs par la violence, qu'on leur donne nécessairement des actes à commettre auprès de quidam, donc des citoyens comme vous et moi ou autres, et non justement envers un autre gang ennemi. Ça a beaucoup explosé. Suivez ce que Maria Mourani dit, criminaliste, suivez un petit peu dans l'actualité. Le crime, en général, est rendu sans discipline. Il y en avait une, autant dans la mafia que du côté des Hells Angels ou du crime organisé. Il y avait une certaine discipline. On ne s'attaque pas aux citoyens, aux citoyennes, on ne s'attaque pas aux femmes, on ne s'attaque pas aux enfants. Maintenant, ben, c'est un petit peu plus déboulonné. On est ailleurs. Et ces criminels-là aussi, ils ne veulent pas se rendre en prison. Ce n'est pas juste des gens qui n'ont rien à perdre. Ce n'est pas juste des gens qui sont à la recherche peut-être d'une prestance auprès de leur groupe criminel. Ce n'est pas que ça. C'est rendu un peu plus complexe que ça. Puis ça joue aussi sur sur le quotidien des agents correctionnels. Il y a la ministre Sonia Lebel, bien sûr, qui est très enclin à commenter le dossier, a dit que pour le gouvernement, il est important d'améliorer les conditions de travail des agents et d'offrir de la stabilité aux équipes et d'assurer un meilleur déploiement des effectifs. On s'entend que ça, c'est une ligne très politique, là. On a beau apprécier Mme Lebel, là, elle fait de la politique dans ce qu'elle a dit. C'est sûr qu'ils vont revoir ça. Ils n'ont pas le choix. On est en manifestation depuis ce matin devant le centre correctionnel de Centre de détention de Québec. Et ça ne sera pas la dernière fois qu'on va les entendre parler, les entendre crier, les entendre justement dans nos rues. Mais si vous vous demandiez ce qui se passait aujourd'hui, c'est ça. Alors, on manifeste devant le Centre de détention de Québec. Puis, c'est à se rappeler, hein, cette phrase-là, que vous soyez pour ou contre des syndicats, que vous aimiez ou pas, que vous posiez des questions sur comment c'est administré maintenant au Québec, parce qu'on le fait tous, puis c'est correct, c'est très important de le faire. Cette phrase-là est particulière. Quand c'est rendu qu'il faut que tu fasses du temps supplémentaire obligatoire pour donner des activités aux personnes incarcérées, c'est rendu ridicule. On dirait que j'aimerais parler un peu plus avec ces agents correctionnels-là, même s'ils ont un certain devoir, en fait, de mutisme, là, un devoir de réserve dans leur métier. C'est particulier. Puis c'est vrai, là, les textos entre autres pour dire qu'il y avait un code de conduite. Oui, il y avait un code de conduite, même à l'intérieur des murs de prison. Tu voulais être le plus calme possible pour avoir ta sortie le plus rapidement possible aussi, qu'on soit capable de dire que tu avais un bon comportement entre les murs de la prison puis que tu pouvais réintégrer la société. Est-ce que c'était honnête? Ça, c'est une autre affaire. Hein? Chacun était au courant de sa propre honnêteté, mesdames et messieurs. Hey, on revient, vous êtes dans l'heure CV. Merci d'être là.
Financez votre nouveau salarié.
À l'extérieur, c'est un magnifique soleil. C'est à profiter aujourd'hui. Honnêtement, on est rendu à 23 degrés déjà à 10h25 et ça peut monter jusqu'à 27. C'est facile comme prévision. Toute la semaine, vous n'aurez pas à vous poser beaucoup de questions, à moins que ça change. On le sait. Parfois, on est un peu bipolaire côté mère nature, mais c'est correct. C'est ça aussi la vie. Chose certaine, magnifique semaine. D'aujourd'hui à vendredi, du soleil bord en bord jusqu'à 27 degrés comme maximum à chaque jour. C'est 27, 27, 27, 27 et 27, ce que je vois sur le radar. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé leurs vacances? Si oui, vous allez avoir toute la semaine pour en profiter amplement. Pas vous casser la tête avec l'habillement et ce que vous allez faire. C'est une semaine exceptionnelle. Pour un mois de juin, j'ai pas vu ça beaucoup dans les trois dernières années, même que tout le monde commençait à prendre leurs vacances fin août, septembre, parce que le début de l'été, ben, je sais, on n'est pas encore en été officiellement, là, était un petit peu plus aride. C'était un petit peu plus difficile, c'était plus de la pluie, un peu plus frais, mais là, c'est pas ça du tout. Même quand il va pleuvoir, soit sur le radar en fin de semaine, ça a le temps de changer, c'est des températures qui vont jusqu'à 21 degrés. On est très chanceux à Québec aujourd'hui. On va faire un tour de l'actualité. Beaucoup de choses à dire. Entre autres, il y a une crise à la Sûreté du Québec et elle est fascinante, celle-là. Il y a eu un enregistrement capté par une fréquence radio policière où on entend une répartitrice de la Sûreté du Québec qui se confie. Il y a en fait une fenêtre qui est assez rare là, sur la crise qui secoue les centres de gestion des appels de la police provinciale. Ça fait beau aussi que je suis en communication avec quelqu'un qui y travaille puisque la personne me dit c'est que justement, c'est extrêmement complexe. La pression, il y a comme de la pression sur beaucoup de corps. De travail, beaucoup de secteurs provinciaux, de secteurs aussi très importants de notre gouvernement, en fait, qui est géré, entre autres, par le gouvernement, là, à revoir. Puis c'est à se demander si on a travaillé assez sur leurs conditions à travers les dernières années. Mais bon, pénurie de main-d'œuvre étant aussi. Cet enregistrement-là a été capté le 17 mai dernier. Okay? Il y a une répartitrice qui est débordée. Elle ne peut pas répondre aux demandes des patrouilleurs qui ont besoin de son aide. Là. Je veux dire, c'est des patrouilleurs, c'est des policiers. C'est à la SQ. Par exemple, on veut vérifier le dossier de conduite d'un automobiliste qui est suspect. Vous allez me dire, c'est pas une urgence, on comprend. Elle va prioriser justement les appels, puis ce qu'elle peut faire comme travail, auprès de qui, à quel moment. Par contre, elle est déjà sollicitée par des appels de citoyens, c'est ce qu'elle priorise, puis elle annonce sur les ondes radio aux policiers qui vont devoir patienter. Donc, elle demande d'appuyer sur la touche qui les met en attente pour quand même conserver cet appel-là, pour pouvoir y revenir. Mais puisque l'ampleur du territoire qu'elle couvre est importante, elle n'a pas le choix, en fait, de faire poireauter. Là, ce qu'on dit dans l'article du Soleil, c'est qu'elle a dit aux patrouilleurs « Je suis seule encore pour un moment pour 8 postes de police. » C'est tout petit, hein, comme affirmation. C'est très bref, c'est très court, mais c'est un extrait audio qui a été obtenu par les coops de l'information auprès d'un tiers et qui témoigne de cette intense pression-là qui est subie par les répartiteurs de la Sûreté du Québec. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir pensé à certains appels qu'on a entendus dans le passé, entre autres celui d'Alexandre Bissonnette dans le temps. Vous allez voir pourquoi je fais une corrélation importante avec ce que j'entends et ce que je vois de cet article-là sur une répartitrice qui doit gérer 8 postes de police en même temps sur son corps de travail parce que, ben, justement, là, les centres de gestion d'appels à travers la province sont plombés par un taux de roulement d'à peu près 40 %. Là, c'est difficile. Écoute, tu peux appeler en Estrie pour avoir une réponse à Boucherville. Là, vous comprenez? Là, c'est quand même à plusieurs kilomètres, à plus d'une centaine de kilomètres de là. L'image que je veux faire, c'est à quel point ces gens-là qui sont répartiteurs ont besoin d'un sang-froid, d'une concentration à son comble. J'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui va faire ce métier-là. Je pense qu'ils travaillent trop souvent dans l'ombre, mais qu'on doit souligner leur travail de gestion par rapport à des cas comme ceux-là. J'entendais récemment, il y a une page, puis je vous découperai des extraits s'il faut, là, mais qui prend en compte plusieurs appels à des répartiteurs. Je ne sais pas comment on a réussi à rendre ça public, je ne sais pas si c'est légal et autres, mais où on entend entre autres quelqu'un qui appelle et qui dit « Hey, mes mains, c'est rendu des couteaux. » Mais la personne au bout du fil, elle ne peut pas rire, puis elle ne peut pas commencer à s'obstiner avec celle qui, ou celui qui a appelé et qui dit que ses mains sont rendues des couteaux. Là. Je dirais, c'est pas Édouard aux mains d'argent, là, mais elle comprend qu'il y a peut-être un problème de santé mentale, il y a peut-être de la drogue sinon, il y a peut-être quelque chose, mais qui c'est important de bien gérer, de faire comme si c'était totalement normal, parce que en faisant ça, tu es justement en train de bien répondre à cet appel-là et peut-être mener à aucun débordement, empêcher des débordements d'une personne qui devient encore plus en crise, qui est dans une anxiété, une désorganisation totale par rapport à son illusion, son hallucination de mains qui sont rendues des couteaux. Puis elle dit, peux-tu les enlever, tes couteaux? Non, c'est vraiment mes mains, c'est bon. Alors, vous voyez, puis ça pourrait déborder peut-être en une attaque si la personne continue de se désorganiser parce que la personne qui a répondu a mal répondu, n'a pas pris en compte, n'a pas parlé doucement, n'a pas gardé son calme. La personne peut sortir puis se désorganiser. Bon, Alexandre Bissonnette, ça a été un cas qui a été médiatisé. Vous avez entendu l'appel qui a été passé au centre de service, au 911. Vous vous souvenez peut-être ou pas d'à quel point le répartiteur, la répartitrice, a gardé son sang-froid et a géré tout ça d'une excellente manière, tellement qu'on a réussi à arrêter le jeune homme sur la route et procéder à son arrestation. Ces gens-là sont essentiels. Mais s'ils ont à gérer 8 postes de police en même temps, que ce soit du petit patrouilleur, puis là, je diminue personne, là. Je pense qu'en tant que patrouilleur, vous êtes capable de comprendre. Petit patrouilleur qui a une petite cause en ce moment à faire parce qu'il y a quelqu'un qui a roulé trop vite sur la route puis qui doit vérifier le permis de conduire. Un patrouilleur, en passant, c'est pas un petit patrouilleur, il va gérer bien des affaires puis des crises aussi. Là. À un cas extrême de violence et de désorganisation, si la personne est débordée, son stress est à son comble, elle sent qu'elle ne fait pas son travail de façon efficace, elle sent qu'elle n'est pas capable de réagir promptement et dans une assurance qui permet, veut pas, la sécurité sur le territoire de Québec. Moi, c'est ce qui me fascine qu'on en soit là. Puis je pense que c'est important quand même de le souligner que ces gens-là travaillent avec cœur puis que s'ils ont des conditions de travail comme celle-ci, on doit en parler, entre autres, dans les médias. Donc ça, c'est un article qui est important. C'est une courte phrase qui nous en dit beaucoup sur l'importance de peut-être aller faire un petit... d'aller poser un regard, puis d'aller poser une inquiétude, un questionnement quant à ce travail-là qui semble être, bon, en pénurie d'effectifs, mais aussi une grande pression sur le dos de ces gens-là. Puis donc, sur la sécurité de tous et chacun. Il y a un article aussi dans Le Soleil qui m'a fait... qui m'a donné des frissons. Ça se titre « Un rapport sexuel avec une ado contre une vapoteuse ». Je vais aller rapidement parce que c'est difficile ce matin-là. Mais en juin 2022, on appelle la jeune fille Elodie, c'est un nom fictif. Elle a contacté un homme de 35 ans sur Messenger. Elle voulait une vapoteuse, elle. Puis, ben, elle n'avait pas de moyen de s'en procurer une à 13 ans seulement. Donc, elle a offert un rapport rapport sexuel, son premier rapport sexuel, en échange d'une vapoteuse à Maxime Laterrière-Fugère, qui lui a dit au début « Hey, c'est pas légal, t'es mineur », mais il a continué la conversation. Il est allé la rejoindre dans le stationnement d'une école primaire à Québec. Il l'a invité dans la voiture et voilà qu'ils ont procédé. Il y a beaucoup d'informations dans le texte. Je pense que l'information, elle est importante d'être soulignée. Je passe vite, mais chose certaine, sachez que c'était sa première relation sexuelle à cette jeune Elodie-là, 13 ans, contre une vapoteuse. Et elle est repartie à pied tout simplement après une heure plus tard. Puis ça sera en cours maintenant parce qu'elle a dévoilé le tout à la police 10 jours plus tard. Elle a dénoncé les événements. Ce Maxime Laterrière-Fugère-là a communiqué avec la jeune fille le 19 juin après. Puis ben là, c'est un enquêteur de la police de Québec en infiltration qui lui a répondu. Donc, gros travail du côté de la police. Puis on a été capable justement de procéder à des accusations de contact sexuel, de leur informatique, d'obtention de services sexuels moyennant rétribution. Et l'homme en question a plaidé coupable à ces accusations-là. On va voir aussi du côté du ministère de la Justice du Canada la définition du consentement. On dit que c'est très, très clair. Donc, une jeune personne de 12 ou 13 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de 2 ans son aîné et qu'il n'y a aucune relation de confiance, d'autorité ou de dépendance, ni aucune forme d'exploitation de la jeune personne. Là, Elodie et l'accusé ont une différence d'âge de plus de 20 ans. Peu importe le contexte, les activités sexuelles étaient considérées comme une infraction criminelle. Donc, Maxime Laterrière-Fugère a essayé de contourner la loi, mais il dit avoir cru qu'elle avait 15 ans. Peu importe, l'âge de consentement est fixé à 16 ans au Canada. Donc, dans le rapport d'un agent de probation, on dit que l'accusé dit avoir été manipulé par la victime. Il jette le blâme sur elle, admet seulement un manque de jugement. Il dit s'être senti seul lors de cette période. Il voyait cet événement-là comme une expérience pour satisfaire sa forte libido. Alors, c'est un cas qu'on va suivre encore une fois dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez des jeunes qui sont à l'école. Probablement qu'on est dans la période des examens des ministères. Ça, c'est stressant. Jusqu'à la Saint-Jean, là, au secondaire, c'est important. Puis on remet en cause et en question même le fait de réussir un cours à la fin du secondaire malgré un échec. Il y a une pratique qui est dénoncée par des syndicats d'enseignement. Il y a certains cours qu'un élève de 4e secondaire doit passer, puis d'autres que s'il échoue, par exemple, en français, il peut aller quand même en 5e secondaire dans la même matière, là, le français. Puis s'il réussit en 5e secondaire, on considère que l'élève a, de façon rétroactive, réussi son cours de 4e secondaire qui avait initialement poché, coulé, non réussi. OK? Et c'est une pratique qui est dénoncée par les syndicats d'enseignement parce qu'on dit que le ministre Bernard Drainville ne doit pas fermer la porte à d'éventuelles modifications. On appelle ça le déboulage dans le réseau scolaire. C'est un document que vous pouvez lire là, du ministère de l'Éducation et ça a été envoyé en 2022. C'est une pratique qui est toujours en vigueur. Moi, quand j'étais au secondaire, c'était en vigueur. Certains cours étaient essentiels en 4e secondaire, en 3e secondaire et en 5e secondaire, et d'autres, non. Ça faisait en sorte que... Moi, je me questionne pareil à savoir si on devrait abolir tout ça dans le contexte actuel où on est noté au secondaire selon l'évolution de ton année. Ça commence très, très fort, puis tu as des difficultés au courant de l'année selon les différentes matières, puis c'est pas que ça va de plus en plus... ça va être de plus en plus difficile, là, on n'est pas là-dedans. Tu peux couler ton année. Il y avait vraiment une grosse emphase qui était mise sur l'évolution, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui était très, très mauvais, peut-être à première étape, s'ils avaient compris les concepts tout au long de l'année, puis étaient meilleurs à la fin, pouvait passer son année. Il y a vraiment une façon de revoir les choses qui est à faire. Mais ça faisait en sorte, justement, que si tu avais coulé ton année parce que la dernière étape était moins bonne que les autres, puis là, on avait vu que ta progression, finalement, pour le système scolaire était moindre, mais finalement, c'est juste des concepts qui sont différents. C'est pas nécessairement des concepts plus difficiles. Tu pouvais passer ou pas ton année. Mais pour certains cours, c'est extrêmement important de les passer en 3, 4 et 5 pour faire même une demande au cégep. Et pour d'autres, si tu es capable de passer la 5e secondaire, par exemple, tu vas être correct pour la suite des choses. Il y en a qui remettent ça en question, qui disent si tu as coulé, tu devrais couler. Mais je ne sais pas comment vous voyez les choses avec vos jeunes aussi. Là, je pense que ça a sauvé quelques élèves, justement, d'un échec ou d'une non-demande au cégep. Mais on est beaucoup à l'ère où on veut faire en sorte que les jeunes prennent leurs responsabilités puis passent leurs cours. Là, ça, je le comprends, mais c'est à revoir. Et la nouvelle là, que je viens de vous de vous jaser fait énormément réagir. Hein? 418-971-1021 par texto ou encore sur Twitch. C'est la façon de communiquer avec moi. Il y a des salaires de 275 000 et plus pour 10 grands patrons de filiales méconnues d'Hydro-Québec qui ont été octroyés. C'est des cadres supérieurs qui gèrent à la fois une filiale puis un secteur de société d'État qui ont des salaires... aussi gros que ça. Là. On appelle ça le club select de grands patrons d'Hydro-Québec aux deux chapeaux parce qu'ils dirigent en même temps une filiale de la Société d'État et des secteurs clés du fournisseur d'électricité. C'est dans le Journal de Québec aujourd'hui. Je vous rappelle que tout ce qui est service correctionnel veut se faire entendre et va se faire entendre de plus en plus. Et ça se passe ce matin devant le Centre de détention de Québec. C'est le deuxième plus important dans la province et il y a manifestation depuis ce matin. 300 personnes sur 2700 agents correctionnels qui demandent à avoir de meilleures conditions de travail, mais c'est surtout les heures supplémentaires obligatoires qui sont pointées du doigt. Ils sont pas d'accord avec ça. Ils disent qu'ils font des heures supplémentaires pour des activités aux personnes incarcérées et quand on n'a pas ça pour des gens en CHSLD. Il y a Québec qui va installer des arches de sécurité dans 9 palais de justice d'ici l'automne 2025. On s'active. Côté sécurité. Rappelez-vous l'attaque de l'interprète judiciaire. Ça s'est passé cet hiver à Longueuil et ça a convaincu le gouvernement Legault de resserrer les contrôles dans les palais de justice les plus achalandés de la province. Là. Ceux qui n'ont pas de détecteur de métaux, qui sont achalandés, on va en mettre. C'est ce qui a été décidé par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, et ça va se faire entre juin 2024 et septembre 2025. On est en vitesse grand V, justement, pour y aller. Puis je vais terminer avec une nouvelle qui a attiré mon attention. Un lutteur qui s'en va dans la NFL. On essaie ça du côté des Bills. C'est pas la première fois que les Bills ont décidé de faire les choses autrement. Là. À la fin du dernier repêchage, il avait pris un risque. En fait, il avait pris un ancien joueur de rugby qui avait jamais joué au football. Mais on s'entend rugby, football, pour avoir joué au rugby, connaître le football, il y a des similitudes, il y a quand même de bonnes différences, mais c'est quand même plus près que la lutte. Et là, on récidive, les Bills de Buffalo, dans les derniers jours, ont embauché un lutteur. Ils vont tenter de le transformer en joueur de ligne défensive. C'est Gable Stevenson et il va avoir son premier essai avec les Bills. Il n'a jamais mis une paire d'épaulettes, il n'a jamais compris nécessairement un jeu de foot sur le terrain. Il a un contrat d'une durée de 3 ans. Il faut savoir que les contrats ne sont pas garantis là, dans la NFL. Il fait 6 pieds 1 pouce, 265 livres, et il va tenter de percer cet alignement-là comme plaqueur défensif. Il s'est fait connaître, rappelez-vous, comme lutteur amateur. Il avait décroché une médaille d'or olympique aux Jeux de Tokyo en 2021. Puis, au préalable, il avait remporté 2 fois championnat national à l'Université du Minnesota. Mais si tu ne connais pas la lutte, je ne suis pas sûre que tu le connais tant que ça, ce gars-là. Mais après son sacre olympique, il avait quand même entendu avec la WWE, il avait fait des combats, puis ça avait été télévisé. Mais bon. Il s'en va avec les Bills. Il tente le coup, les Bills, avec Stevenson. À titre d'agent libre, ce qu'on dit, c'est que il dit que j'ai eu la chance de compétitionner au plus haut niveau dans mon sport, puis j'ai hâte de voir comment mes habiletés en lutte peuvent se transformer au football. Il dit, je suis reconnaissant que le coach des Bills me donne cette opportunité-là. Je le vois comme quelque chose d'assez comique. Possible, fortement, le gars est en forme comme pas possible, il est découpé, c'est un athlète, il faut le dire, mais j'ai hâte de voir comment ça va se transformer, parce que là, c'est non conventionnel. Hein. Les Bills tentent des choses qu'on n'a pas vues là, ailleurs. Là. C'est eux qui ont repêché, comme je vous disais, le joueur de rugby, Travis Clayton, et ils tentent de le transformer, lui, en bloqueur. Donc là, on a un lutteur, un ancien joueur de rugby au sein des Bills de Buffalo. Je trouve ça rafraîchissant. Des athlètes, ce sont des athlètes. Le hic étant, tu peux être extrêmement bon dans ton sport, comme un cycliste peut être très, très fort, avoir un cardio d'enfer, des cuisses de béton, mais si tu l'amènes ailleurs... où il faut peut-être moins d'endurance, mais plus de puissance à un moment, ça ne sera pas le meilleur athlète. Là. Il va même manquer de forme, en fait, pour faire certains sports. On parle souvent avec des coachs sportifs qui disent que ben, faut que tu développes tes athlètes dans différents sports pour qu'ils soient au summum de ce qu'ils peuvent livrer comme peut-être performance sportive. Mais là, j'ai hâte de voir si ça va pouvoir être fait. T'sais, des lutteurs, je veux dire, ça travaille, oui, en équipe, mais pas au même point qu'au football. Là, on est dans la NFL. Là. On n'est pas sur le terrain de football d'une école secondaire à Québec. Là. Et donc, il va falloir qu'il livre des performances autres que du spectacle ou de la forme. C'est vraiment un gros travail avec une équipe complète qui est en symbiose, bien honnêtement. Je trouve ça rafraîchissant. Puis, la seule chose qui, moi, m'allume une petite lumière puis une petite crainte au sein de tout ce que je suis comme fan de foot, c'est j'espère que c'est pas un événement ou une... une envie marketing. Parce que j'ai moi-même envie d'aller voir une Games des Bills, même si c'est pas mon équipe, parce qu'il va y avoir un lutteur, un joueur de rugby, je veux les regarder performer, je veux pas juste le voir à la télé, je pourrais y aller à Buffalo encore, puis dépenser de l'argent pour assister à ce spectacle-là. Mais, est-ce une histoire de marketing un peu à la... On a fait un spectacle complet avec nul autre que Taylor Swift qui sort avec Kelce, tu sais. Je veux juste pas que ça devienne ça, le sport. Bien que c'est un athlète, bien qu'il jouerait assurément sur le terrain, puis il y aurait du plaisir, les joueurs, puis ce serait sportif et autres. Je souhaite juste que le sport ne devienne pas que marketing. Je sais, c'est déjà le cas, mais pas juste ça. Comprenez-vous un peu mon questionnement? Hey, Caravane, un groupe de Québec qu'on aime énormément, nous avait sorti en 2016, Maxime. Le chanteur, Dominique, était présent au Grizzly Fuzz, nouvelle salle de spectacle de Bleu Feu sur Saint-Joseph en fin de semaine. Il a livré une performance de DJ contre Claude Bégin dans la Claire Ensemble. Grizzly Fuzz, peut-être à surveiller. Je sais que Maxime y a fait son tour en fin de semaine, il a bien aimé ça. Mais pour avoir d'un côté et de l'autre deux personnalités connues qui font un set de DJ en compétition avec une belle gang de Québec qui s'amuse entre les deux, ça peut devenir des événements extrêmement prisés ici. Là. C'est très original. Écoutez ça, c'est le chanteur de Caravane qui a fait ça là, en fin de semaine. Oui, avec Claude Bégin dans la Claire Ensemble. Là, on l'écoute à Boulevard 101. Maxime, dans vos oreilles, dans leur CV.
Leur CV. Avec Pascal CV.
Vous avez énormément réagi aux nouvelles. Je pense que celle qui a fait le plus réagir, ben, entre autres, c'est celle des répartiteurs. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, leur pression, puis à quel point, en dehors de ce que nous, on vit, puis de façon cachée, ils ont du stress. Puis en plus, ben, quand t'as une personne qui gère 8 postes de police, ben, c'est un stress qui est inadéquat. En fait, ça devrait pas arriver. Vous avez parlé aussi beaucoup de vos retrouvailles, comme quoi, pour vous, ça a été un événement super positif, mais aussi très confrontant, de savoir où est-ce que vous étiez rendu dans la vie par rapport aux autres, qu'est-ce que vous étiez devenu physiquement aussi. Quelqu'un qui a dit, hey, moi, j'avais tellement pris de poids, c'était après mes grossesses, j'avais eu de la misère à y aller parce que j'avais peur de me faire juger. Merci de la confidence. Puis c'est vrai que on se compare toujours aux autres. Là. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi par rapport au système scolaire, comment c'est fait en ce moment de faire passer des jeunes à l'étape suivante, c'est cool, une matière en question pendant leur parcours au secondaire. Quelqu'un qui dit, mon garçon a coulé entre autres sa quatrième année, puis j'aimais mieux qu'il la reprenne, qu'il traîne un retard et commence au secondaire avec des classes particulières. Donc tout le monde le voit d'une manière ou d'une autre, mais... oui, effectivement, le fait de doubler, ça s'est perdu un petit peu là, dans tout le processus scolaire au Québec. On préfère y aller avec une possibilité d'être meilleur l'année suivante. Disons-le comme ça. Hey, c'est tout pour leur CV. On se retrouve dès demain, 10h, ou tout de suite dans Marceau le midi. Puis, selon ses réseaux sociaux, j'ai des petites affaires à gérer avec lui. Ouais, l'exploitation, c'est non. Sachez-le. Imposez-vous. Allez m'imposer, moi, avec Marceau, dans quelques minutes. Restez là, Boulevard 102.1.